retrouver Rose pour l'émission Contradiction sur IDFM Radio, un temps dédié aux gens qui se donnent du mal pour aller bien.
Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre. Un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol.
C'est là qu'intervient le modèle de la navigation. Ça veut dire qu'on n'est plus dans une décision, c'est-à-dire je décide de ma vie, je décide de moi, ou bien bah non, tout est déterminé, j'y peux rien, je me laisse emporter. Non, on est dans quelque chose qui est intermédiaire et où en fait on navigue.
C'est au détour de mes écoutes compulsives des émissions de France Culture, entre autres, que je découvre notre invité il y a, je dois l'avouer, à peine 2 ans. Et c'est le titre de son ouvrage dont il faisait la promotion qui a immédiatement et sans surprise attiré mon attention. Effectivement, se vouloir du bien et se faire du mal, c'est le titre donc de cet ouvrage. Cette phrase pourrait à elle seule contenir toutes les définitions possibles de l'addiction. Cet ouvrage, qui traite bien plus en réalité des interactions entre des êtres bien distincts, plutôt qu'entre soi et soi, comme dans le cas précis de l'addiction, n'en est pas moins une exploration fascinante des tensions internes qui animent nos vies et des forces invisibles qui façonnent nos choix. Parce que la philosophie interactionnelle dont se revendique notre invité, puisqu'il l'a lui-même créée, il me semble, permet surtout un examen profond de la nature humaine et des motivations qui nous poussent à agir de manière contradictoire. En approfondissant le sujet, c'est-à-dire en un clic et demi plus tard, me tombe immédiatement du ciel Spinoza, son éthique, son clan et ses méthodes pour exister. Parce que si mon invité devait souffrir d'une quelconque addiction, ce serait sans nul doute à la philosophie de Spinoza et en particulier au livre central du philosophe, l'éthique, dont il a dirigé la dernière traduction. Il y a pire comme addiction, vous me direz. Quoique notre invité ait pu peut-être connaître des cravings inattendus et des descentes vertigineuses dont nous ne soupçonnons pas l'existence durant l'étude de textes du sage néerlandais. En creusant encore, un clic plus tard, je découvre non seulement que nous venons de la même ville, de la région PACA, mais aussi de la même ère, où l'on creusait à coups de claque et non de clic, que nous avons passé notre bac dans le même lycée, mais tandis que je repiquais ma terminale avec, oui, un pauvre neuf en philosophie, mon invité, lui, se lançait dans une exploration de toutes sortes d'écoles. École normale supérieure, école du Louvre, école française de Rome, aujourd'hui. Chercheur en philosophie, ses travaux s'étendent de l'histoire de la philosophie à la littérature et ses traductions, en passant par l'art et l'esthétisme ces derniers temps, il se lance dans l'apprentissage de la guitare. Et je mentionne cette information dans l'unique but de souligner le seul domaine dans lequel j'ai peut-être encore un peu d'avance sur Maxime Rovert. Bonjour Maxime et merci d'avoir accepté de te livrer à cet exercice contradictoire dans lequel je n'essaierai jamais de te contredire. Non, pour une fois, je me ferai toute petite, même si mes brèches, mes anomalies, mes traits de personnalité, mes inconnus, autant de notions dont nous allons discuter ensemble, ne me laisseront encore une fois sûrement pas en paix.
Bonjour.
Je suis contente de te recevoir, cette introduction est très longue. Est-ce qu'elle est pénible ?
Ah, pas du tout. Elle est très agréable parce que il y a quelque chose de très clair que tu as mis en place d'emblée, c'est que se vouloir du bien et se faire du mal, en fait, mais notre pensée au défi de surmonter la différence entre soi et les autres. Ça veut dire que c'est vrai que d'un côté, on se dit « oui, alors c'est un thème qui m'intéresse parce que moi je me voudrais du bien mais je me fais quand même du mal », c'est-à-dire en interne, entre moi et moi. Et on a l'impression que c'est un autre sujet de parler du mal qu'on se fait entre nous. Or, tout l'objet du livre va être de montrer que vous partiez d'une situation ou de l'autre, ça revient absolument au même. Parce que les autres, c'est-à-dire nos proches, ceux qui nous entourent, ceux qui soit viennent d'une famille qu'on n'a pas choisie, mais en réalité qui se construit au fur et à mesure que l'enfant grandit, soit sont nos amis qu'on a l'impression d'avoir choisis ou nos amours, dans les deux cas, nos proches sont nos miroirs. Donc ce qu'il se passe avec nos proches, d'une certaine manière, ça se passe aussi de soi à soi. Et inversement, ce qui se passe dans notre fort intérieur, c'est aussi le reflet de relations et d'interactions qui se déploient en réalité, loin au-delà de l'individu. Donc vous voyez, on part tout de suite sur des choses finalement assez profondes, simplement en réfléchissant sur la question, bon alors, qui se veut du bien, qui se veut du mal, et en fait, d'où vient notre souffrance, quoi ? Parce que c'est ça la grande question.
Bah moi, en tout cas, ce livre que j'ai découvert, et donc après, j'ai dû découvrir les autres. Donc ça a été un long travail pour moi. Mais ce livre-là m'a attirée, évidemment, parce que j'avais l'impression que vous alliez parler de cette histoire de se faire du mal à soi-même. Et en fait, j'ai découvert en fait, tout ce que je vivais au quotidien, c'est-à-dire mes colères, mes brèches, mes fêlures, ce qui fait qu'en fait, avec des personnes que j'aime, ça se passe parfois très mal. Et en plus, il y a un truc qu'on ne dit pas dans ce livre et qui, moi, m'intéresse, c'est que souvent, on consomme. On dit ça, consommer sur. On consomme sur une colère, sur un ressentiment, sur une honte. Et toutes ces choses-là, elles arrivent en miroir. La honte, la colère, le ressentiment, c'est pas seul. Donc en fait, à cause de ces interactions, souvent, il y a des personnes comme moi, addictes, qui vont se retrouver à aller avoir besoin de quelque chose pour apaiser cette souffrance. Mais on va parler justement de cette souffrance. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous donner une définition très personnelle que tu aurais de l'addiction ?
Je dirais que l'addiction a la forme d'une pente ou d'une glissade qui fait retomber dans quelque chose qui nous aspire. L'addiction, c'est pas la maladie de quelqu'un qui serait addict. C'est une dynamique répétitive. Ça veut dire que c'est une boucle. Cette boucle, elle est désorganisée et désorganisante. C'est-à-dire qu'elle crée du désordre. C'est une réponse à un désordre. Et c'est une réponse qui est inadaptée en ceci qu'elle fait taire un désordre en en créant un autre. Voilà ce que c'est qu'une addiction. Sa particularité, c'est qu'elle boucle, ça veut dire qu'elle est répétitive. Mm-hmm. Hein? Ça, c'est la chose la plus évidente quand on parle d'addiction. C'est-à-dire qu'on voudrait y échapper, on y revient. C'est pour ça que je disais pente. Parce qu'on fait des efforts pour remonter la pente et crac, on retombe et on va rouler en bas à nouveau. Mais au lieu de le voir de manière linéaire comme des allers-retours, je pense que c'est très important d'avoir bien en tête des modèles géométriques. C'est-à-dire, c'est pas juste un va-et-vient entre des efforts vers le bien et des rechutes vers le mal. Non, c'est plutôt une boucle qui est circulaire et qui s'inscrit dans un temps où en fait on peut évoluer. Ça veut dire que quand on va vouloir réfléchir sur l'addiction ou sortir de l'addiction, il va falloir tenir compte du fait qu'on n'en sort pas d'un coup, on n'en sort pas brutalement, et c'est l'image pas seulement d'un type de personne qui serait addict, etc. C'est l'image de toute la vie humaine qui se déploie en spirale. Donc on n'avance pas d'un coup, on avance en rechutant, et c'est au niveau de ces rechutes que se joue en fait la sortie hors du labyrinthe, quoi.
Voilà. Ah, c'est drôle, on a beaucoup parlé du fait que les rechutes fassent partie du rétablissement, mais là, cette histoire de circulaire qui en fait s'inscrit dans une temporalité qui fait que dans ce cercle, dans cette boucle, il y a de quoi évoluer. Ça, c'est nouveau. C'est très nouveau. Se vouloir du bien et se faire du mal, on va commencer. On va faire ça peut-être en deux parties. C'est-à-dire, j'aimerais vraiment. J'ai pas pu vraiment aller explorer tout ton univers, mais il y a ce livre, vraiment, qui est très fort pour moi parce qu'il m'a énormément appris sur moi et sur ma façon de me comporter avec les autres et aussi des choses qu'on répète sans cesse avec d'autres gens, mais aussi avec soi-même. Et après, il y a Spinoza, évidemment. Dans se vouloir du bien et se faire du mal, c'est philosophie de la dispute. D'abord, c'est le troisième volet, en fait, d'une philosophie que tu appelles interactionnelle. Donc, je trouve ça très intéressant. Il y a que faire des cons, déjà, qui est très drôle, et l'école de la vie érotique de l'acte d'apprendre. Ce troisième volet, il est composé de 4 chapitres. Il pose beaucoup de questions, mais ils y répondent aussi beaucoup. Donc, tu as déjà comment surmonter les tensions. Donc, ça, c'est dans une dispute. À qui la faute ? C'est dans une dispute. Comment se pardonner ? Ça, on peut envisager que ça peut être pour soi-même aussi. Mais la quatrième partie m'a énormément parlé, évidemment, qui est comment changer. C'est ça ?
Tout à fait.
Vers quoi changer ?
Ouais.
Alors déjà, j'ai envie de te demander, est-ce qu'on peut changer ? Où trouver, il y a cette phrase, où trouver dans notre existence individuelle les leviers susceptibles de faire évoluer l'ensemble des systèmes auxquels nous prenons part ?
Ouais, c'est la grande question parce qu'en réalité, quand on pense à changer, le premier biais, c'est qu'on ne pense à changer qu'un seul individu. Or, un individu, par définition, il est relié, il est situé. Ça veut dire qu'il est soumis aussi à des pressions qui viennent de l'extérieur et qui peuvent contribuer à ces rechutes. Donc, le problème de vouloir changer, c'est que ça va immédiatement s'articuler avec de la culpabilité, puisqu'on ne va pas y arriver. Donc, pour éviter ça, il va falloir déjà se repositionner et considérer qu'on ne va pas changer tout seul, ça veut dire qu'on va avoir besoin d'aide, et qu'on ne va pas changer tout seul, au sens où il va falloir que les autres ou d'autres choses changent avec nous. Donc là, on commence à s'inscrire justement dans ce que j'appelle l'interaction, c'est-à-dire, au lieu de penser les individus comme des identités closes sur elles-mêmes, c'est-à-dire moi, je suis moi à l'intérieur de mon corps, on va considérer que non, en fait, je deviens moi en permanence dans certains échanges qui bouclent avec les autres. Voilà. Donc, comment changer, en fait, c'est une question qu'on doit se poser avec beaucoup de patience envers soi-même, pour commencer, et avec beaucoup de vigilance, c'est-à-dire en acceptant de déporter son attention vers les choses que nous, on voudrait changer, et de là, vers des choses qu'on n'envisageait pas de changer, mais qui en fait sont cruciales. C'est-à-dire qu'il va y avoir un chemin qui va nous surprendre et qui va amener l'attention à se porter sur des zones de notre personnalité dont nous n'avons pas idée au moment où nous voulons changer. Vous comprenez ? Ça veut dire que ce qui va changer, lorsque vous allez changer pour de bon, vous n'en aviez aucune idée au départ.
Ben c'est là qu'on va pouvoir justement parler de ces brèches et de ces inconnus, parce que justement c'est tout le sujet de ce livre. J'ai beaucoup trop de questions, donc c'est vrai que les changements qui se préparent mais se contrôlent très mal, ils adviennent mais à leur rythme. Et que cette la dispute en général ou le conflit, moi j'ai envie de penser même envers soi et soi-même, en fait il peut tout à fait être intéressant pour nous-mêmes et en général souvent. Il l'est, il nous amène à changer. Cette discorde intérieure, elle peut conduire à la base à des comportements autodestructeurs, mais ces comportements autodestructeurs, justement, quand on veut les changer, ça nous demande de changer tout autre chose. Alors, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, les discordes extérieures, elles engendrent de la colère, du ressentiment, des choses, et ça nous demande à nous de changer quelque chose.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, cette discorde ou ce désordre qu'on peut ressentir en soi, c'est une opportunité.
Voilà. Comme le mot crise en chinois que j'ai envie de me faire tatouer ici, là, bientôt, qui veut dire, qui s'écrit en deux signes, qui veut dire danger et opportunité. Voilà. Et pour moi, une crise, c'est ça. Il y a un danger qui amène à une opportunité.
Exactement. Donc, en fait, c'est cette ambivalence de la crise qui peut avoir des effets soit fructueux, soit destructeurs, qu'il faut savoir explorer. Mais dans les deux cas, c'est un passage pour aller dans des directions qui nous sont inconnues et qui sont un petit peu incontrôlables.
Voilà, donc c'est là qu'on va revenir à justement ces mots d'inconnu, de brèche, de mur, de puits. Les anomalies, les brèches sont des nécessités naturelles qui nous permettent d'évoluer. Est-ce qu'on peut dire, dans d'autres mots, que ce sont nos ombres qu'on va aller éclairer pour justement les sortir de l'ombre ?
Oui, parce qu'en fait, il faut partir du commencement, c'est-à-dire d'une approche de chacun en termes de système. C'est-à-dire que si toi, Rose, tu n'exploses pas là, si tu t'es constitué comme une personne humaine, unique, que tu sais dire je, que quand on t'appelle Rose, tu n'as pas l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre, qui sont des états psychiques qui existent. Hein. Même un nourrisson, par exemple, n'est pas unifié au niveau de son corps, donc il n'arrête pas d'halluciner, de se dire « mais c'est dingue, j'ai un pied droit, c'est dingue, j'ai un pied gauche ». Et ça dure ça jusqu'à ce qu'on appelle le stade du miroir, c'est-à-dire quand il commence à s'identifier dans le miroir, il achève son unité corporelle. C'est-à-dire il se dit « tiens, tout est à moi là-dedans ». Et c'est un problème parce qu'en fait, dans le miroir, il y a des petites erreurs qui se sont glissées entre l'être qu'il voit qu'il est de l'extérieur et l'être qu'il sent qu'il est de l'intérieur, par proprioception. Bien, nous, on est tous des systèmes, en fait. Ces systèmes ne sont pas parfaits. Ça veut dire quoi qu'ils ne sont pas parfaits ? Ben ça, vous êtes tous d'accord que chacun a des défauts. Mais au lieu de parler de défaut, qui est un jugement moral, je préfère parler d'anomalie ou d'incohérence. Ces systèmes ne sont pas tous cohérents parce qu'on est traversé de tellement d'interactions, ne serait-ce que dans le corps. Je veux dire là, mon corps est en train de réguler ma température, mais aussi ma respiration. Mais en même temps, je suis dans une situation sociale où on fait un podcast. Et en même temps, on est en train de parler une langue française que nous n'avons pas inventée, nous. Donc il y a beaucoup d'interactions qui n'ont rien à voir. Je veux dire, la langue française et ma respiration, ça n'a rien à voir. De temps en temps, ça peut devenir incohérent. Ça peut entrer, par exemple, si j'ai plus de souffle, ben je ne peux plus parler. Ok ? Donc, les interactions qui nous composent en tant que système peuvent entrer en conflit les unes avec les autres. Ça, c'est ce que j'appelle une brèche, parce que là, il va y avoir du désordre. Ça signifie que lorsque vous êtes en vrac, littéralement. C'est-à-dire que lorsqu'une situation de vie vous met à l'envers, c'est qu'en fait, votre système est entré dans l'une de ces brèches et qu'il est en train de faire l'expérience de son propre désordre. Pourquoi est-ce qu'on vit ça ? Parce que justement, le système peut, dans l'expérience de ce désordre, augmenter sa capacité d'organisation en transformant des choses qui ne fonctionnent pas bien, qui ne sont pas adaptées.
Donc, en fait, on apprend. Dans ce désordre-là, on a cette faculté de... ça s'appelle le coping, et c'est ça l'adaptabilité.
Voilà.
Et en fait, ça nous permet de trouver des solutions, de s'adapter par rapport à nos brèches.
Sachant que...
Est-ce que c'est pareil, une anomalie et une brèche ? J'ai l'impression que l'anomalie, ça serait plus dans une histoire, par exemple, le trauma. Et la brèche, c'est ce que l'anomalie vient créer ?
Ou... Ce qui a favorisé l'anomalie.
Ah oui, d'accord.
Puisqu'en fait, elle fonctionne elle-même en boucle.
En boucle.
Donc, c'est toujours une histoire de poule et d'œuf. C'est-à-dire, il n'y en a pas un qui crée l'autre. Ouais. C'est ce qu'on appelle la complexité. C'est-à-dire, ce qui vous vient de l'intérieur ou ce qui vous vient de l'extérieur, ça se multiplie toujours l'un par l'autre. Donc, ne cherchez pas à vous dire, mais en fait, le problème, il est à l'intérieur de moi. C'est comme si vous disiez, mais en fait, la grandeur d'un rectangle, ça vient de sa longueur. Eh ben écoute, non, ça vient autant de sa longueur que de sa largeur. Ouais. Donc, quand on réfléchit de cette manière-là, du coup, tout change parce que ça signifie que on va un petit peu moins se fier à ses décisions personnelles, et notamment dans le cadre de l'addiction, on va arrêter de prendre des décisions qui consistent à dire bon bah des résolutions quoi, de nouvel an. Bon bah à partir de maintenant, je vais faire comme ci ou comme ça. Des trucs directs, frontaux, où on cherche à décider de soi, parce que ça ne peut pas marcher comme ça. En revanche, on peut faire interagir des efforts avec des interactions en cours. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'au lieu de vous dire j'ai identifié quelque chose en moi que je veux changer et je vais le changer par décision, ce que vous ne pouvez pas faire, vous pouvez identifier des choses dans la situation qui vous conviennent plus ou moins et des opportunités, disons, de changer de posture, de changer de position, qui ne vous demandent pas de créer quelque chose qui n'existerait pas, mais plutôt d'exploiter quelque chose qui existe déjà. Donc il y a un effort qui est minimal là, c'est-à-dire c'est très paresseux comme solution, puisqu'il ne s'agira plus de faire un effort de volonté.
Mais nous, on aime ça les addicts. Les
efforts ?
Non, les efforts paresseux. Enfin, on a besoin d'évoluer par millimètre.
Exactement. Parce que justement, je crois qu'il y a... Alors pour le coup, ça c'est une addiction collective à l'effort, à la valorisation du mérite, au volontarisme.
Surtout dire, je me suis fait tout seul, c'est moi, et puis c'est grâce à moi, et puis j'ai décidé que... moi, en lisant ton livre, je me suis vraiment rendu compte que j'avais décidé de rien du tout. Ça, on en parlera avec Spinoza aussi.
Alors,
parce que
on
ne
décide pas de rien du tout, hein, mais on est en dialogue avec quelque chose qui est plus grand, et justement qui est de l'ordre du système, ça veut dire...
Exactement, c'est
on
systémique.
Est dans une société, on est dans un écosystème, donc on décide pas de tout, mais on décide pas de rien non plus.
Et il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est cette histoire de halo de dérivation par rapport à la brèche, c'est-à-dire que en fait on fait en sorte de... Donc cette brèche existe, c'est-à-dire c'est une faille, c'est quelque chose en nous qui est fragile.
C'est ça.
Et en fait, elle appartient à notre conscience, mais notre conscience fait tout pour la rendre imperceptible. Et donc, en fait, ça devient... soudainement, on attire l'attention ailleurs. Et donc là où ça m'intéresse par rapport à l'addiction, c'est que moi, je me suis rendu compte de ça par rapport à moi et d'autres personnes qui sont addictes. On consomme, on prend de la drogue, on boit. En fait, tout ça, c'est de la diversion pour justement échapper à la brèche.
Oui, ce qui est étonnant, c'est que on fait ça... pour la faire taire ou pour l'éviter, pour contourner la souffrance.
Oui.
Et en fait, c'est exactement ce mouvement de contournement
qui redéfinit
la souffrance. Oui. Ça définit le mouvement même de souffrir, l'acte même de souffrir. C'est pour ça que ce qui est amusant et ce qui est très paresseux dans ce que je décris, c'est que sortir de ça, c'est pas du tout faire un effort supplémentaire, c'est cesser de faire l'effort de contournement. C'est un truc, il n'y a pas plus difficile que ce que nous faisons déjà.
Oui, voilà.
C'est ça, le plus difficile, c'est de faire taire ses propres brèches. Si vous arrêtez, ça va être plutôt plus facile. Le problème, c'est qu'on a tendance, ça c'est une grande théoricienne des systèmes qui s'appelle Donella Meadows, qui a écrit le rapport de Rome sur la croissance, les limites de la croissance. Et elle dit, les gens ont souvent l'intuition de ce qu'est un levier, c'est-à-dire un petit truc qui pourrait changer, qui pourrait créer de grands effets dans un système, mais en général, ils le poussent dans le mauvais sens. Et donc l'addiction c'est ça, c'est-à-dire vous savez exactement quel est le levier qui va vous permettre d'aller mieux, par contre vous allez... exactement dans la mauvaise direction.
En fait, il faut lâcher prise.
Ah oui, mais enfin, quand on dit il faut lâcher prise déjà.
Se confronter à la brèche, parce que par exemple, tu dis, si une brèche finit par disparaître à nos yeux, ce n'est pas qu'elle est devenue inactive, au contraire. C'est-à-dire que quand on arrive à oublier, c'est-à-dire bah, le nombre de traumas aussi, de choses que les addicts redécouvrent, en fait, en étant sobres, souvent on dit, si tu veux savoir pourquoi tu bois, arrête de boire. Une fois que tu arrêtes de boire, tu vas pouvoir travailler, aller en thérapie, chercher, connaître. Après, on va parler de Spinoza, parce que c'est quand même la connaissance de soi qui amène à ça, parce que comment aller trouver, on va parler de ça, des causes qui nous déterminent, mais comment aller soi-même comprendre que cette brèche, elle existe, que je ne dois pas la contourner, que je dois l'affronter et qu'est-ce que je dois faire. Enfin, ça a l'air simple comme ça.
Oui, oui, non. En réalité, sérieusement,
c'est très...
Qu'est-ce qui... Donc, alors, c'est là où il faut être subtil, c'est-à-dire, c'est pas difficile parce que ça demande un effort. C'est difficile parce qu'on le voit pas. C'est pas que ça demanderait du muscle, c'est pas que ça demanderait de la force, de la volonté. Etc. C'est pas ça. C'est difficile parce que ça se présente devant nous comme par tant de brouillard et c'est sous nos yeux, mais on le voit pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Si vous ne savez pas résoudre une brèche, elle va appeler statistiquement un nouvel incident. C'est pour ça que dans le cas des disputes, par exemple, les disputes se reproduisent. Et pourquoi elles se reproduisent? C'est parce qu'on n'a pas su régler ce qui les motive. Il y a quelque chose, il y a une dynamique relationnelle en dessous qui fait que bah, si vous avez évité...
On se dit au bout de 10 ans, pourquoi je revis la même dispute avec ma mère tous les ans?
Avec ses parents, avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses amis.
Qu'est-ce qu'elle
ses
veut
amis
nous dire cette dispute? Mais en fait, c'est un peu pareil aussi avec
avec l'addiction.
Oui, avec la drogue. Pourquoi quand on arrête de consommer, soudainement on replonge et on se dit c'est la même chose alors que j'ai tellement travaillé, que je croyais avoir compris.
Voilà. Et donc, ça, c'est le signe que nous ne cessons pas d'être en dialogue avec ces inconnus que nous n'avons pas voulu rencontrer et qui se représentent à nos yeux, mais vraiment sous notre nez, et qu'à chaque fois, on fuit. Donc, la grande difficulté, et ça, c'est difficile, c'est pour ça que la solution, elle ne demande pas beaucoup d'efforts, mais elle demande beaucoup d'attention.
De lucidité.
De lucidité. Et c'est ça qu'il faut apprendre à développer. Mmh. Et apprendre à développer sa lucidité, là, pour le coup, ça passe vraiment par un entraînement qui consiste à accepter de prendre du temps, de développer des techniques pour s'explorer. Ça ne veut pas dire se connaître soi-même au sens où je me pose face à un miroir, je regarde, puis je me connais moi-même.
Connaître ses modes de fonctionnement.
Ouais, c'est beaucoup plus exploratoire. Mmh. Il faut y aller parce que justement, il va falloir accepter que ce que nous sommes, en réalité, c'est un grand continent que nous connaissons très très peu et il va falloir avancer quand
Bien
même.
Bien sûr. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est justement dans ce livre, il y a des clés assez concrètes. Par exemple, le fait de se parler à la seconde personne, moi, j'ai trouvé ça très fort, tu vas nous expliquer. Ou alors, la notion de vulnérabilité, de pardon, cette théorie de l'attention aussi, de porter son attention sur des choses sur lesquelles on ne portait pas son attention, comme dans une dispute, on va porter l'attention toujours sur la même chose. Mmh. Bon, déjà, se parler à la seconde personne, moi, je trouve ça très fort.
Alors, ça, se parler à la seconde personne, c'est un truc philosophique qui est vieux comme le monde, puisque ça remonte aux stoïciens, donc au premier siècle de notre ère, c'est Sénèque, c'est Marc Aurèle et tout ça. Et ces gens-là, qui sont des gens tout à fait respectables, tout à fait sérieux, en fait, quand ils se placent dans cette posture exploratoire, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui cloche en moi?
Ils disent pas je.
Ils disent plus je, ils renoncent au je, et ils disent tu. Et pourquoi ils disent tu? Parce qu'en fait, ils acceptent d'entrer en dialogue avec cette ombre ou cet inconnu qu'on a en nous, et ils lui parlent. Et ils lui parlent, et vous allez trouver ça ridicule, parce que vous dites, mais non, mais moi, ça va rien m'apporter. Je vais me mettre dans mon canapé, je vais me dire, bon, alors Maxime, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi ce qui se passe. Et vous vous dites, bah, ça va m'amener nulle part. Ben, pour commencer, faites-le. Mais faites-le sérieusement, c'est-à-dire faites-le sincèrement. Faites-le à voix haute, parce que moi, je me suis rendu compte qu'à voix haute, ça change tout.
Ouais, ça change tout.
Voilà.
Mmh. C'est comme la prière, enfin, ceux qui ont envie de prier. Hein. Mais je trouve qu'à voix haute, c'est autre chose.
Et donc, on n'est pas en train de dire « ça suffit de faire ça ». On est en train de dire « là, vous avez une technique qui est éprouvée, ça fait 2000 ans qu'on le fait, pour s'explorer soi-même et pour laisser parler des choses en nous dont nous n'avons même pas conscience. »
Et notamment le fait de se dire tu, déjà, tu le dis très bien dans ton livre, c'est-à-dire qu'en fait, quand on se dispute ou quand on est en conflit avec soi-même, c'est pas l'enfant en nous, c'est carrément l'enfance qui parle. Donc en fait, on va parler à l'enfance, on va parler à cette personne-là, et donc les enfants, en général, sont pas raisonnables et raisonnés. Donc on va pas leur dire, regarde, je suis plus comme ci, je suis comme ça. En fait, il suffit de parler à un enfant aussi. Et la deuxième chose, c'est qu'aussi...
Avec la bienveillance aussi, hein, la bienveillance qu'on a envers un enfant.
C'est aussi, quand on arrête de se dire « je », on arrête de nourrir cet égo qui ne sait pas qui il est.
Et qui est toujours dans la défensive,
voilà.
Parce que c'est la fonction de l'ego.
Oui.
Il faut vraiment se figurer l'ego comme un bouclier ou comme une sorte de personne en armes qui serait toujours là pour nous défendre. Encore heureux qu'elle soit là, mais cette armure-là. Mais en revanche, elle est souvent encombrante. Et donc, lorsqu'il s'agit de s'explorer, ça vaut la peine de se décaler. Et justement, ce passage à la deuxième personne, c'est aussi une manière de dire, là, je vais laisser une interaction que je ne connais pas parler, parce qu'en fait, tu dois comprendre, ma petite interaction, que tu es trop petite pour être un individu. Donc, qu'est-ce que tu veux, toi ? Et vous allez voir qu'il sort des choses qui sont justement de l'ordre du caprice, mais quand plus on... Mais du caprice, mais aussi du malaise, mais aussi de la tristesse. Hein, je veux dire, c'est pas « je veux un bonbon hein, », c'est plutôt « je suis vraiment triste parce que j'ai vu telle injustice » ou « parce que je ressens de l'abandon », etc. Et donc, quand on fait ressortir ces interactions-là, il y a beaucoup d'émotions qui jaillissent et on cesse d'en être prisonnier. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc important.
Et... La brèche qui finalement finit par se stabiliser à force de répéter les choses et qu'elle devient en fait elle devient nous quelque part, c'est ça, se stabiliser, elle devient la brèche de
oui entre en fait notre le système s'organise autour d'une brèche, c'est-à-dire qu'il faut se représenter,
elle forme un trait de personnalité,
ouais, il faut se représenter un être humain comme un système qui a donc des zones de désordre et qui essaye de pas s'effondrer sur lui-même, donc de maintenir une sorte de cohérence alors qu'il y a des zones d'incohérence. Ça veut dire que plus on s'approche des zones d'incohérence, plus il faut s'assurer que tout le système ne va pas s'effondrer dedans, qu'il ne va pas absorber tout. Et pour l'éviter, on adopte des comportements fixes. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on se dit, bah, moi je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. En réalité, c'est débile. Je veux dire,
c'est les traits de personnalité.
C'est des traits de personnalité. Mmh. Ça veut dire, moi par exemple, je suis frileux. C'est embêtant parce que dans une société patriarcale, on valorise énormément, là, chez les hommes, la résistance au froid. Donc, résister au froid, c'est le signe d'un homme viril. Voilà. C'est embêtant parce que moi, je veux bien être un homme viril, ça m'intéresse. Par contre, le froid, ça ne m'intéresse pas du tout. Pourquoi est-ce que ça ne m'intéresse pas ? Je ne peux pas vous l'expliquer. Pourquoi ? Parce que c'est un trait de personnalité. À un moment dans mon histoire, et je ne sais pas, ça demanderait trop de temps de partir à la quête de la cause, vous voyez ? Mais à un moment, sans doute que mon corps et mon émotion se sont trouvés alignés sur quelque chose qui ne convenait pas. Je sais pas, peut-être que tout bébé, à la sortie du ventre de ma mère, j'ai eu froid à la maternité. C'était une époque où on séparait les bébés des mamans.
Ouais.
Et donc, seul dans ma couveuse, j'ai sans doute eu froid. Et donc, cette association entre l'abandon et le froid fait que moi, je supporte pas d'avoir froid.
Tu n'as plus jamais voulu avoir froid.
Voilà. C'est un exemple pour dire que comment une expérience, même simple, même pas extrêmement traumatisante, hein, mais ça peut être beaucoup plus grave, va déterminer des préférences. Et ces préférences, en fait, elles sont faites pour cacher...
Pour éviter de revivre
l'émotion.
Ce truc douloureux, ouais.
Mais en réalité, d'un point de vue extérieur, tout le monde voit ce que vous essayez de cacher. Parce que tout le monde sait que moi, je suis frileux. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que on n'est pas du tout dans un rapport de l'inconscient caché. C'est plutôt un inconscient qui est très visible. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller le chercher très loin. Il est à la surface. D'ailleurs, même dans la psychanalyse, on ne va pas chercher loin. On va chercher à la surface des mots, à la surface de ce qui se dit réellement. Et donc, la philosophie, elle permet de le penser aussi sans passer par une pratique nécessairement psychanalytique, puisque c'est vraiment en vous donnant de l'attention à vous-même que vous découvrirez des choses nouvelles, quoi. Et là, il y a un continent infini à explorer.
Et Spinoza l'a tout à fait exploré, ce continent justement de l'attention à ce qui détermine nos choix, en fait. Hein, parce que donc ce qu'il disait, c'était que les hommes se croient libres parce qu'ils sont ignorants des causes qui les déterminent. Il n'y a pas que lui, il y avait Aristote qui disait que l'homme se croit, je ne sais plus quoi, dans son navire.
Comme un pilote
en son
navire.
Comme un pilote. Voilà, et en fait, il y a cette impression-là que l'être humain est, en fait, choisi. Et en fait, non. Bon, est-ce que le déterminisme qui, pour beaucoup de philosophes, en fait, est totalement, enfin, épargne l'homme, parce que souvent, tout est déterminé sauf l'homme, Spinoza, lui, quand même, il rentre un peu dans le tas en disant l'homme aussi, quoi. L'homme aussi est déterminé par des causes qui, dont il est ignorant.
Voilà, tout à fait.
Donc on n'est pas libre, jamais.
Alors si, on est libre, mais il va falloir redéfinir la liberté, il va falloir même redéfinir le déterminisme. Je vais le faire très rapidement.
Ouais. J'ai beaucoup aimé la métaphore du chapeau, je ne sais pas si ça va dans cette histoire ou pas du tout.
Oui, mais là, ce n'est pas spinoziste.
C'est pas ça. Ouais.
Ça, c'est vraiment
ça,
moi.
C'est toi.
Oui, c'est moi, parce que là, il faut de la théorie du chaos,
oui, c'est
et
ça.
Il faut de la théorie de la mécanique des fluides. Spinoza, il est dans un truc un peu plus simple, qui est une causalité de type classique, où il y a une cause qui crée un effet, et l'effet est proportionnel à sa cause. Et dans ce monde-là, Spinoza introduit un truc incroyable. Non seulement il va montrer que si nous vivons dans le même univers que les pierres et les végétaux et les animaux, ça veut dire que les humains eux aussi sont déterminés. Ça veut dire que pour tout ce qu'on fait, il y a une cause. Voilà. Et si on croit qu'on décide de nous-mêmes, c'est justement parce qu'on ignore quelle est la cause. Sauf que dans l'univers de Spinoza, le système de référence où se déploie la causalité est infini. Ça signifie que, bien sûr, qu'une cause crée un effet. Mais pour qu'elle crée cet effet, il faut que toutes les causes convergent ensemble, qu'il n'y en ait aucune qui l'empêche. Là, vous vous dites, je peux dire oui ou non à n'importe quelle question qu'on me pose. Je suis libre de dire oui ou non. Et Spinoza vous dira, oui, en fait, ce que vous allez dire sera déterminé par un enchaînement qui est mécanique. Mm-hmm. Sauf que, comme ce mécanisme se déploie dans un univers infini, en réalité, ce n'est pas déterminé à l'avance. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris.
Par rapport au déterminisme.
Voilà, c'est-à-dire que Spinoza, c'est un déterministe. Ça veut dire tout est déterminé par des causes.
Donc on n'est pas libre, entre guillemets, mais en fait...
Rien n'est déterminé à l'avance.
C'est-à-dire que c'est déterminé au moment où on le fait.
C'est en train de se faire.
C'est en train de se faire.
C'est pour ça qu'on est libre, oui, mais pas parce qu'on prendrait soi-même la décision souveraine de dire « je dis oui ou non, je vais à droite ou à gauche », parce que ça, vous n'êtes pas souverain là-dessus, c'est un enchaînement de causes. En revanche, vous êtes l'une de ces causes. Et il y a plein de causes qui sont en train de jouer. Et vous, vous allez surfer, vous allez en favoriser certaines et en inhiber d'autres. Pour faire en sorte que, je ne sais pas, par exemple, dans votre prochain dîner de Noël, vous savez que votre oncle est un affreux macho, mais par contre, vous empêcherez toutes les conversations qui, ouvriront la porte à des remarques machistes. Donc vous noirez le poisson d'une certaine manière et vous empêcherez les causes de produire leurs effets. C'est ça en fait la liberté
ça, c'est possible,
chez Spinoza.
Alors.
Ben oui, puisque en fait vous faites partie des causes.
Mmh. Ah oui, c'est ça qui est important. C'est parce qu'on fait partie des causes qu'on peut changer en fait la finalité du truc.
Au lieu de dire tout est déterminé, donc nous ne sommes pas libres, on doit dire nous sommes déterminants, donc nous sommes libres.
Donc en fait c'est une perspective. Beaucoup plus stimulante et assez, positive sur la liberté qui nous invite à nous engager en fait pleinement dans nos choix et en fait de se rendre compte qu'à chaque fois qu'on pose un acte et une intention ou une attention quelque part, elle est importante.
Ça veut dire techniquement que dans le monde de Spinoza, vous pouvez tout changer à partir du moment où vous en trouvez la cause.
Comme tu dis qu'il y a tellement de causes, comment trouver ? En fait, moi, par exemple, j'ai trouvé une cause, un trauma, t'as vécu ça quand t'étais petite. Et puis finalement, tu fais une constellation familiale et on te dit non, mais en fait, c'est ton arrière-grand-mère. Et puis finalement, tu vois une médium qui te dit non, mais en fait, c'est toutes tes générations de femmes avant. En fait, les causes, on saura jamais si elles sont d'hier, de demain ou d'il y a 12 000 ans. Comment connaître les causes ? Comment ?
Alors, la causalité est donc infinie, ça tu viens de l'expliquer de manière très claire. Donc en fait, c'est infini. Il y a un passage, il y a un seuil en fait, qu'on appelle la causalité suffisante. La causalité suffisante, c'est quand tu as réuni assez de faisceaux, de facteurs, pour produire l'effet. Et inversement, si tu veux que l'effet s'arrête, il faut que tu aies réuni un faisceau de causes suffisant. Une fois que tu as la cause suffisante, claque, ça bascule.
Ça nous intéresse pour l'addiction, parce que c'est ce que je dis souvent, il faut un faisceau de solutions. Il faut être entouré à 360, parce que justement, on consommait pour tellement de causes.
Exactement.
Qu'il va falloir qu'on soit vraiment entouré. C'est-à-dire que si c'était psychologique, c'est bien un psy. Si c'est parce que c'était inné à l'intérieur de nous, c'est bien de faire du sport. Si c'est...
Voilà.
Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais il y a cette histoire de souveraineté de la volonté dont tu parlais tout à l'heure, les stoïciens. En fait, il y a un truc que tu dis dans ce livre, c'est si on n'arrive pas à changer une situation, il va falloir qu'on se change nous-mêmes. Et en fait, chez les stoïciens, moi, j'avais l'impression que c'était un petit peu l'inverse, dans le sens où quand on dit de trouver ce qu'on ne peut changer, ce qu'on ne peut pas changer, et d'en connaître la différence, c'est la prière de Marc Aurèle, je crois, ou je ne sais pas si on lui attribue.
C'est dans le manuel d'Épictète, là. C'est vraiment, il y a une différence radicale entre ce qui dépend de nous et ce qui dépend pas de nous.
Moi, j'ai l'impression que ce qui dépend, que c'est plus facile. Par exemple, quand je suis alcoolique, je ne peux pas changer ça, je suis alcoolique, mais je vais essayer de changer justement les faisceaux de cause et les situations. Alors que toi, tu dis que je ne peux pas changer la situation, mais je peux changer ce que je suis. Ah, je suis un peu paumée.
Oui, t'es paumée parce que tu viens de restaurer une frontière que j'essaye de défaire, qui est la frontière entre moi et la situation. Toi, tu es en situation, tu n'existes pas sans situation. Donc il va falloir que tu refasses ton modèle. Je dirais à partir d'interactions qui bouclent. Ça veut dire que, en fait, la situation, elle est en train de te définir et toi, tu es en train de définir la situation. Vous êtes ensemble. Voilà. Et ensemble, il va falloir trouver des solutions. C'est pas du tout soit c'est moi, soit c'est l'autre. C'est plutôt quelles sont les interactions qui sont en cours en ce moment et quelle est celle, justement, qui fait basculer les choses, qui crée la causalité suffisante. Et il suffit, encore une fois, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase. C'est-à-dire, il suffit de repérer la goutte qui va faire déborder le vase. Vous n'avez pas besoin de le vider en entier. Tu peux laisser le vase un peu plein et tu te dis « c'est une situation que j'aime pas beaucoup », mais tu vas pas forcément exploser ou retomber dans ton addiction, même si tu es un peu en tension. Mm-hmm. Et donc, tout l'enjeu, c'est là. C'est-à-dire, lorsqu'on sent que la tension monte, trouver des manières de la faire diminuer et de la maintenir à un niveau où, en fait, on tient bon. Et c'est là que intervient le modèle de la navigation. Ça veut dire que on n'est plus dans une décision, c'est-à-dire je décide de ma vie, je décide de moi, ou bien, non, tout est déterminé, j'y peux rien, je me laisse emporter. Non, on est dans quelque chose qui est intermédiaire et où, en fait, on navigue.
J'épouse ce qui se passe, ce qui arrive. Donc, on est dans le taoïsme.
J'accepte pas tout, c'est-à-dire je les navigue, c'est comme la mer, c'est-à-dire je peux pas décider de l'orientation des vagues ou du vent.
Oui, tu dis pas je navigue sur, tu dis je navigue l'océan, toi.
Oui, d'ailleurs, c'est marrant parce que la correctrice en français disait non, mais en français, on dit on navigue on navigue sur.
J'étais assez surprise. Ouais.
Et en anglais, il y a cette possibilité de naviguer quelque chose.
Ouais.
Et
comprend, en fait, c'est plus surfer une vague, quoi. C'est plus ça qu'on entend par ce que tu dis.
Ouais, mais c'est à la fois sûr et dans naviguer quelque chose, ça veut dire que tu en fais
tu
partie.
Tu te laisses emporter.
Ça t'emporte, mais tu te laisses pas.
Oui.
Tu comprends?
Mais tu en fais partie.
Et tu en fais partie.
En fait, c'est ça que tu expliques très bien. C'est ce déterminisme spinoziste qui n'est pas le déterminisme qu'on veut lui...
Qui n'est pas subi.
Voilà.
C'était l'émission Contre Addiction avec Rose sur IDFM Radio. Rendez-vous lundi prochain de 21h à 22h. Retrouvez le podcast sur rose-lecite.fr et idfm98.fr.
IDFM 98FM. Don't even gotta try.
Now you know.
I like shouting, naked better over time.
Now you know.
They just say I'm not the baddest bitch you like.
It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. Time to put it in the proof.
Don't even gotta try.
Now you know.
I like-
naked, better over time.
Now you know.
Heard you say I'm not the baddest bitch you like.
J'ai toujours cru aux fantômes. J'ai peur des âmes et des monstres dans jaune. J'ai peur des lions, des momies qu'on embaume. Des cendrillons dans la nuit qui chantonnent. Attrapez-moi, attirez-moi, enlevez-moi. Vous attendez quoi? Je deviens grand. Je prends le temps, oui le temps d'oublier que tout fout de camp. Se cache sous des masques en papier. Tout doucement. La vie est si belle sous les rayons du ciel. Quand on est loin des gens. J'entends des chants, moi je suis les sirènes. Depuis mon lit je craignais les vampires. Tous les ambitieux qui bâtissent des empires. Je me sentais observé par des petits hommes verts. Qui ont des lasers qui peuvent détruire la terre. Depuis ma chambre j'imaginais des diables. Se cachait là derrière mon cartable. Je voyais des ombres planquées un peu partout. Quand ma mère éteignait la lumière tout à coup. Attrapez-moi, attirez-moi, enlevez-moi. Vous attendez quoi? Je deviens grand. Je prends le temps, oui le temps d'oublier que tout fout le camp. Se cache sous des masques en papier. Tout doucement. La vie est si belle sous les rayons du ciel. Quand on est loin des gens. J'entends des chants, moi je suis une sirène. Je deviens grand. Je prends le temps, oui le temps d'oublier que tout fout le camp. Les monstres se cachent sous des masques en papier. Tout doucement. Si belle sous les rayons du ciel. Quand on est loin des gens. J'entends des chants. Moi je suis une sirène.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Music in the air and lots of love.
loving everywhere. So give me the night. Give me the night. So come on out tonight, and we'll leave the others on a ride to paradise. And if you feel alright, then we can be lovers, cause I see that starlight look in your eyes. But don't you know we can fly? Just give me the night.
Until the morning light,
cause there's music in the air and lots of love and everywhere. So give me the night. 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 Give me the night.
T'as changé, chérie, qu'est-ce t'as? Faire la guerre, ça ne m'intéresse pas. Si toi et moi, c'est sans espoir, tu sais que je vais faire le nécessaire. Oh, j'étais si naïf de croire que tu serais la bonne pour moi. Chaque fois que tu cries, j'angoisse. Je ne comprends pas en quoi je devrais garder le sang-froid. Ma belle étudiante en droit, même si tu seras mieux sans moi, je resterai dans tes fantasmes, celui auquel tu penseras jour et nuit. Goodbye, goodbye. Avec toi, je ne vais pas faire ma life. Et même si nous deux c'était spécial, avec toi, je ne vais pas faire ma life.
Elle voudrait que je reste encore un peu. Sans moi ces nuits ne sont plus pareilles. Me dit qu'elle veut du soleil, qu'elle a besoin de ce feu et d'un petit quickie au réveil. Veut que je sois rien pour elle. Mais je ne sais pas si elle en vaut le détour. Elle me dit qu'on est fait pour être à deux. Everyday, n'essaie jamais de faire mieux. Ne prends jamais rien au sérieux. Oh, baby, je crois que c'est mal.
Goodbye, goodbye. Avec toi, je ne vais pas faire ma life. Et même si nous deux c'était spécial, avec toi, je ne vais pas faire ma life.
So now, bye bye, bye bye, bye bye. Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Pistol smoke, fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight.
Been spending most of the night living in the desert.
Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team.
Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. It's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
IDFM Radio 98 FM.
To have on, you know you got to be strong.